Utopie.
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 Pluriel.
Utopie pluriel.
Utopie pluriel.
Utopie pluriel.
Utopie pluriel.
Utopie pluriel, le podcast de la turbine.
La turbine.
La turbine.
Le podcast de la turbine.
Partir à la rencontre de celles et ceux qui vivent en utopie, qui la pensent, l'inventent et la déclinent au pluriel. Artistes, philosophes, urbanistes, écrivains, laissons la parole à celles et ceux qui ouvrent l'horizon de futurs désirables, aux faiseurs d'imaginaires qui explorent d'autres possibles. Aucune carte du monde n'est digne d'un regard, si le pays de l'utopie n'y figure pas. Oscar Wilde.
Utopie plurielle, le podcast des faiseurs d'imaginaires, La Turbine, saison 2, épisode 1. Au cours de la saison précédente, nous avons rencontré des hommes et des femmes avides d'expérience qui incarnent des utopies humanistes, la tête dans les étoiles et les deux pieds dans la terre. Ils et elles ont pour point commun d'être au cœur d'aventures collectives et de croire en la force de leurs rêves pour transformer le réel. Avec notre invité du jour, nous partons en voyage pour aller sur une île inventée, de l'autre côté de l'océan, à la découverte d'un territoire disparu, mais dont subsiste l'imaginaire. Nous débutions la saison 1 avec l'expédition artistique de Simon Gaucher vers l'île d'Utopie de Thomas More. Cette fois-ci, nous partons outre-Atlantique, vers Québec, dans un voyage à la Jules Verne, où le réel et l'imaginaire s'entrecroisent, où le détour par le merveilleux scientifique, genre littéraire créé au XIXe siècle, nous permet de mieux appréhender le vivant et de faire réfléchir et rêver d'autres possibles. Bonjour Maxime là-bas.
Bonjour.
Vous êtes porteur de projets, vidéaste et médiateur scientifique indépendant. Vous êtes co-concepteur avec une équipe franco-québécoise du projet transatlantique Conque des Estuaires, dont nous allons parler aujourd'hui. Créateur du collectif Serre et des bivouacs au Jardin des Plantes de Nantes, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui pour enregistrer cet entretien. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, la question rituelle qui ouvre chacun de nos entretiens, quelle utopie avez-vous abandonnée et quelle utopie poursuivez-vous ?
Alors j'ai beaucoup réfléchi, je pense que l'utopie que j'ai abandonnée c'est sûrement l'utopie universaliste des Lumières. Je pense l'idée qu'il y aurait un espèce d'humanisme général et que voilà, ça pourrait être vraiment le cœur de ce qui nous rassemble. Je pense que ça exclut tout le reste du vivant, ça nous pose un peu comme l'humanité est la seule chose à préserver. Et je pense qu'il y a d'autres choses à préserver que ça et puis une image de l'humanité qui s'effiloche, qui s'étienne, qui est assez mince, quoi. Donc je pense que celle-là, je l'ai un peu abandonnée à regret. Elle était bien, celle-là. Et je pense que celle que je garde, c'est l'idée, justement, qu'on pourrait avoir plusieurs utopies, ou en tout cas, espérances de vie, qui seraient... cohabitables, qu'on pourrait faire exister en même temps, et trouver une politique qui permette à toutes les voix et à toutes les utopies de se rassembler dans une grande histoire commune, je pense.
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ? Qu'est-ce qui est à l'origine de cet attrait pour la science, le vivant et plus particulièrement la botanique ?
Je pense que ça vient beaucoup de mon père qui était botaniste au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Même si pendant longtemps, finalement, les sciences, ça a plutôt été une passion. J'étais passionné par les requins quand j'étais petit. Je voulais absolument devenir océanologue. Donc c'était une passion d'enfance. Au fur et à mesure, ça s'est transformé un peu dans une nécessité, moi, un attrait pour les sciences, parce que je suis extrêmement dyslexique. Donc mis à part les maths, il y avait peu de choses qui me permettaient de passer dans les classes supérieures. Donc j'ai beaucoup investi les mathématiques que j'ai adorées. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais pas tellement envie d'aller vers la recherche et de me réduire à un champ de recherche très précis, c'était faire le deuil de tous les autres. Et du coup, j'ai découvert ce parcours de la culture scientifique qui permettait de rester ouvert à tous les sujets et de pouvoir les transmettre les passions que je découvrais moi-même et que je pouvais transmettre aux autres. Et je suis revenu beaucoup à la botanique après la mort de mon père, et puis en arrivant à Nantes et en découvrant le jardin botanique, j'avais jamais trop plongé dans ces sujets parce que c'est extrêmement technique. La botanique, c'est beaucoup de vocabulaire pour décrire les plantes, et il a fallu que je passe par le palais de la découverte et par les mathématiques dans lesquelles j'ai présenté plusieurs expositions qui avaient pour thème en même temps le végétal et l'informatique. Et donc comment on essayait de représenter mathématiquement le végétal pour me rendre compte à quel point le végétal, la vie en général de toute façon, dès qu'on passe la barrière de la cellule, l'organisation de la cellule, ça devient incroyablement compliqué mathématiquement. Et voilà, le phénomène physico-chimique est incroyablement complexe. Tout de suite, dès les premières cellules, c'est incroyablement complexe. Et donc après, quand on veut se représenter voilà, un organisme en entier, et puis après les écosystèmes, tout ça devient un défi de représentation immense. Et donc je me suis vraiment plongé dans ce monde-là en essayant justement de me dire comment détourner ce problème technique de la description vraiment directe des plantes, de la connaissance du nom des plantes, parce que c'est infini le nom des plantes. Une fois qu'on connaît son nom, finalement, on ne connaît rien sur elle. Donc de se dire qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre sur le végétal pour réussir à se connecter à cette forme de vie, pas pour en faire quelque chose de proche de nous et de pareil que nous, mais au contraire d'incroyablement différent. C'est-à-dire on a des extraterrestres à côté de nous, on a une forme de vie incroyablement différente, des intraterrestres, mais incroyablement différente à côté de nous, et comment on peut faire pour la voir et se fasciner pour elle.
Depuis 2016, vous collaborez à un projet passionnant qui met l'utopie au service de la science, peut-être l'inverse d'ailleurs. On peut lire que Conte des estuaires, c'est un territoire narratif transmédia et transatlantique, un récit immersif, uchronique et utopique, dans lequel sont conviés auteurs, artistes et publics à bâtir et vagabonder, se perdre et découvrir. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots un petit peu plus sur ce projet qui est très ambitieux et singulier ?
Oui, alors c'est un projet qui a commencé il y a longtemps maintenant. Et on a fait plusieurs saisons, on a vraiment expérimenté avec Rhizome, qui est l'association avec laquelle on travaille au Québec, qui travaille sur la littérature vivante, et Arcam-sur-Loire à Nantes, qui travaille plus sur le transmédia, donc savoir comment on peut raconter une histoire par différents médias très très différents. Et du coup, on a essayé d'inventer ensemble, au fur et à mesure, une histoire dans laquelle on s'est nous-mêmes perdus et à laquelle on a nous-mêmes commencé à croire, je pense, en inventant d'abord le personnage d'un botaniste. C'est vraiment lui qui a été notre première porte d'entrée dans cet univers qui nous a un peu lui-même fait découvrir, qui s'appelle Alcide Lachance. Et l'idée, c'est qu'il était venu de Nantes, de Québec, avec des plantes, qu'il était arrivé à Nantes et qu'il avait réussi à hybrider ses plantes. Alors, on lui a inventé tout un parcours de vie qui fait qu'il est devenu vraiment une espèce de botaniste prodige, un chercheur qui avait amateur d'une certaine manière, qui avait découvert avant tout le monde la théorie de l'évolution et qui avait trouvé des techniques pour hybrider de manière spectaculaire les plantes. Et qui est un personnage assez noir, donc qui nous a fait rentrer dans un univers dans lequel on essayait de rendre les plantes un peu inquiétantes. Avec cette idée qu'il essayait de les faire évoluer aussi vite que la société du 19e évoluait et de permettre que les plantes se défendent des êtres humains. Ça, c'est vraiment notre premier personnage qui était un personnage assez noir. Et on lui a fait rencontrer une autre personnage qui s'appelle Charlotte Sémaphore, qui, elle, était une journaliste nantaise, plutôt tendance révolutionnaire, ce qui est au milieu du 19e en France républicaine, en tout cas, n'était pas une évidence au 19e. Et ce personnage, il était au contraire beaucoup, beaucoup plus joyeux à l'idée d'imaginer l'humanité, le parcours commun de l'humanité. Et elle portait une autre science imaginaire, un petit peu comme Alcide Lachance et ses hybridations spectaculaires. Elle portait la technologie des bulles sonores, donc l'idée qu'on peut faire de l'archéologie sonore. Et donc on aurait une possibilité d'aller chercher des voix dans le passé plutôt que des écrits. C'était une espèce d'utopie de diversité des sources historiques, c'est-à-dire que la voix aurait pu voyager dans le temps plus que les écrits, et du coup d'imaginer que voilà, on puisse avoir ces voix du passé avec nous, ces histoires du passé avec nous. Donc ça, c'était vraiment les deux personnages qui nous ont un peu poussé dans cet univers, et on imagine qu'ensemble maintenant ils ont créé une société utopique sur une île inventée. Et d'autres les ont rejoints, et donc c'est vraiment cette société avec ces deux personnages fondateurs. C'est quelque chose d'assez important à Québec, les personnages fondateurs de villes. Généralement, c'est plutôt comment ils ont réussi à fonder les soubassements matériels de la ville, alors que là, c'est plutôt comment ils ont réussi à embarquer des gens sur cette terre nouvelle qui n'était pas habitée, donc il n'y a pas eu une colonisation réelle, il y a eu vraiment une manière d'habiter ce nouveau lieu, quoi.
Concrètement, du coup, c'est un projet qui implique pas mal de monde entre Nantes et Québec, des écoles. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus concrètement sur comment se déroule en fait ce projet sur plusieurs années.
Ouais, au départ, c'était vraiment cette idée-là de montrer, d'avoir cette histoire et de n'en montrer que des petits bouts, comme si on avait un bonhomme et on lui montrait qu'une main, puis après qu'une oreille. Et donc, on a vraiment commencé ce projet où c'était des enfants qui découvraient au cours d'une visite ici dans les serres coloniales du Grand Blottereau. À la fin de la visite, un des jardiniers cassait un pot et à l'intérieur, il y avait une sorte de papier mystérieux qui parlait d'une plante idéale. Et les enfants partaient dans une espèce d'enquête qui allait les emmener au Muséum d'Histoire Naturelle et prendre contact avec Québec, avec d'autres groupes d'enfants, pour qu'ils enquêtent sur ce personnage d'Alcide Lachance et qu'ils réussissent à trouver son projet, qu'est-ce qu'il voulait faire, c'était qui ce personnage et tout ça. Et au fur et à mesure de commencer à travailler un petit peu sur les projets d'Alcide Lachance, comme essayer de les poursuivre. Et à la fin des projets avec les écoles, on a fait ça 2 années de suite, il y avait des artistes qui nous rejoignaient et qui augmentaient énormément l'imaginaire et la réalité presque palpable de ce passé oublié. Et au fur et à mesure des années, on a voulu prendre un peu de distance avec ce travail qui a été passionnant de ping-pong avec les enfants pour vraiment en faire une exposition. Donc là, c'est le travail sur lequel on est aujourd'hui. Et un projet donc transmédia qui est écrit à plusieurs mains avec des auteurs québécois, des auteurs de contes, des autrices québécoises. Et aussi des illustrateurs. Et donc il y a vraiment plusieurs personnes qui explore ce territoire narratif que nous on a commencé à construire et qui trace à l'intérieur différentes petites histoires qui permettent de raconter cet univers plus global, quoi.
Donc vous nous parlez effectivement du rôle des artistes aussi au sein de ce projet, de l'imaginaire. On parle beaucoup de récits, mais effectivement le fondement de ce projet-là est bien un fondement scientifique. Et finalement, Contes des estuaires, ça parle d'une île inventée qui utilise les ressorts de la fiction pour faire comprendre et prendre conscience vraiment des grands enjeux qui sont liés au vivant, puisqu'on parle de ça aussi dans ce projet-là, tout en faisant un pas de côté. En fait, vous explorez, et vous en parlez dans la description du projet, les territoires de l'utopie et de l'uchronie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces termes et pourquoi passer par le merveilleux dans un processus scientifique finalement ?
L'utopie, vous en aviez parlé dans un précédent podcast, ça naît vraiment avec Thomas More, avec cette idée d'une île dans laquelle il y aurait une autre société qui serait advenue, une société qu'on peut rêver, qu'on peut inventer, qu'on peut rêver. Et je pense qu'on a, le XXe siècle a été traversé par des grandes utopies comme ça qu'on a essayé de faire advenir, comme si on allait enfin arriver à la fin de l'histoire, à la solution rêvée. Et je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui, après toutes ces grandes utopies qui ont été très destructrices aussi, de trouver au XXIe siècle une utopie qui nous rassemble et qui soit pas la fin de l'histoire, qui soit un passage. Et je pense que chaque génération doit avoir son utopie et qu'elle sera jamais parfaite, de savoir qu'elle est jamais parfaite et que la génération réussira à trouver une autre utopie qui comble les trous. Donc je pense qu'il y a vraiment une nouvelle manière là au XXIe siècle de faire des utopies qui sont pas... totalement réalisable et dont c'est pas souhaitable qu'elle soit totalement réalisée. Voilà, il y a un côté toujours un peu totalitaire dans l'utopie. Et l'Uchronie, c'est l'idée qu'on peut imaginer un passé rêvé qui aurait fait un peu bifurquer le nôtre aujourd'hui. Et on avait cette idée un peu qu'au 19e siècle, au moment où où l'industrie arrive, où les grandes révolutions scientifiques arrivent, on sait qu'il y a eu des personnages qui ont été oubliés ou pas répertoriés, qui avaient une autre vision du progrès, une autre vision du projet que l'humanité avait à réaliser avec toutes les connaissances qu'ils accumulaient. Et donc, d'une certaine manière, on a voulu rêver des personnages, des ancêtres auxquels on pourrait se raccrocher et qui seraient un peu différents de ceux que les listes d'histoire nous ont sélectionnés. Et donc on a voulu s'inventer comme une espèce de voilà, mythologie au sein de ce projet d'ancêtres qu'on aurait aimé avoir ou dont on aurait pu apprendre des choses différentes.
Donc c'est un voyage dans le temps avec l'Uchronie et un voyage dans l'espace avec l'utopie. Ça résonne, je trouve, avec le concept qui a été développé par le philosophe Michel Foucault sur l'hétérotopie. En fait, lui, il parle des espaces autres, ces territoires en fait, où prennent corps l'utopie à un temps donné, pour un moment donné. Il parle des lieux réels, des lieux effectifs, qui sont des sortes de contre-emplacements, des sortes d'utopies effectivement réalisées, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux. C'est un petit peu ça, en fait, avec l'île inventée, j'ai l'impression.
Oui, il y a un petit peu de ça. Justement, l'endroit de l'estuaire, nous paraissait métaphoriquement aussi un endroit super intéressant, parce que c'est la croisée de l'eau de mer et de l'eau douce. D'une certaine manière, c'est un endroit de connexion entre deux univers différents. Et c'est souvent, ça l'a été beaucoup au 19e, des endroits aussi de connexion entre des espaces et des marchandises et des savoir-faire et tout ça qui étaient très différents des endroits où les gens se croisaient. Donc j'ai l'impression que Michel Foucault parlait pas mal d'espaces fermés dans lesquels il y avait des propres lois qui existaient un peu à côté de la société. Et je me dis que ces espaces d'estuaires étaient des lieux au contraire complètement ouverts, mais dans lesquels s'inventaient à chaque connexion des nouvelles micro-utopies, ou en tout cas utopie dans le sens où ça déstabilisait les sociétés bien organisées. Voilà, c'est pas la société de cet endroit, c'est pas la république de cet endroit, c'est des lieux de croisement dans lesquels chaque interaction crée quelque chose d'un peu un peu différent, ou qui en tout cas peut avoir l'espoir d'être, qu'il se passe quelque chose de différent.
C'est Gaston Bachelard qui, dans La poétique de l'espace, que loger partout mais enfermé nulle part, telle est la devise du rêveur de demeure. Il faut toujours laisser ouverte une rêverie de l'ailleurs. C'est un peu la métaphore de l'estuaire dont vous venez de nous parler. Ce projet, c'est aussi finalement, donc effectivement, on n'arrête pas d'en parler depuis le début, mais faire la démonstration de la force des récits, du rôle de l'imaginaire dans la construction du réel. Et donc vous dites que dans ce projet, il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués, notamment des auteurs, des autrices, dont une autrice qui s'appelle Christiane Vanney, donc je vais citer un extrait de L'île inventée, qui parle de ça, qui nous parle des histoires. Les histoires sont comme les vents qui soufflent sur l'île inventée. Douces, elles vous caressent la peau de chatouillements presque imperceptibles, qui pourtant vous rappellent à l'intention du monde. Effrayantes, elles vous font frissonner de tous vos membres, onduler le sang jusqu'à vos extrémités, et vous renversent, comme seuls peuvent le faire les bourrasques de la saison des pluies. Les histoires sont la source de tout mouvement, elles vous renversent, elles vous déracinent. Parfois, elles vous emportent même là d'où elles viennent. Donc, en quoi finalement ce passage par l'imaginaire, par l'utopie, permet-il vraiment de mieux s'ancrer dans le réel ?
C'est une des technologies dont je n'ai pas parlé qui finalement symbolise vraiment ça. Une des technologies qui est présente sur l'île, qu'ont ramené les frères Diop dans notre histoire, c'est des micro-algues qui se multiplient quand les personnes qui sont autour ont des émotions, au contact des émotions. Et donc toute l'énergie qui est présente sur cette île, qui fait fonctionner l'île, vient des émotions communes qu'ont les habitants de l'île. Et je pense que c'est vraiment un symbole, en tout cas pour nous, de à quel point les histoires communes qu'on se raconte sont des possibilités de faire société, et à quel point c'est important d'avoir des imaginaires communs, même s'il peut y avoir différents personnages qui ont des interactions qui ne sont pas forcément... ça se passe pas forcément bien, mais où c'est vraiment des histoires qui ne sont pas excluantes, qui incluent plein de gens. Et j'ai l'impression que c'est ça dont on manque, sûrement avec l'avènement des nations et tout. On a des histoires qui sont vraiment des histoires locales. On a inventé des histoires de la France, des histoires de... Et je pense que c'est vraiment des histoires plus globales et qui surtout... prennent aussi l'histoire des plantes et des animaux et du reste du vivant et de... Moi, je venant de la culture scientifique, je prends vraiment ce terme d'histoire en même temps au sens littéraire et narratif et imaginaire, mais aussi au sens de la profondeur du temps qu'on a traversé ensemble et de réussir à s'enraciner tous en tant qu'êtres humains, mais aussi en tant que vivants, dans une histoire qui est plus longue et plus profonde, et de ne pas exclure l'être humain de cette histoire, de ne pas exclure certains êtres humains de cette histoire, mais au contraire de réussir à l'imaginer comme une histoire voilà, commune, conflictuelle, mais aussi faite de rencontres voilà, joyeuses et pleines de vie. Donc c'est, je pense que vraiment la narration et l'histoire, c'est ce qui nous permet de tenir ensemble, même s'il peut y avoir plein de rôles différents dans cette histoire.
Et finalement, cette histoire là qu'on se raconte, c'est une histoire, on a vu, on voyage à travers le temps, on retourne visiter des personnages du passé, mais ça nous permet de peut-être se projeter dans le monde qui vient, de raconter l'histoire de demain. Donc je vous cite, à la manière des voyages fantastiques de Jules Verne, « Notre ambition est de mêler réel et imaginaire, problématiques scientifiques et expressions artistiques. En équilibre sur ce pont, pourquoi ne pas rêver un passé que le grand récit de l'histoire n'aurait pas retenu, pour inviter le visiteur à diversifier sa vision du futur, à l'heure où l'effondrement de la diversité culturelle et écologique de notre planète nous apparaît comme inéluctable. » Vous dites qu'il s'agit en fait de faire un détour par un passé onirique pour imaginer un futur à la fois commun, respectueux et durable. Cette démarche, elle fait forcément écho à ce qu'on développe à la Turbine. Nous, notre raison d'être, c'est inspirer et mettre en mouvement pour créer un futur désirable à travers des récits et des expériences artistiques et scientifiques. Finalement, Contes des Estuaires, c'est un prétexte pour imaginer collectivement ce monde de demain.
Ouais, et puis de se poser la question de ce qu'on peut en attendre. En fait, je pense que ça vient beaucoup d'un... on est des grands amateurs de science-fiction, avec mon collègue Jérôme Fillet, avec qui on développe ça. On a pris conscience avec... Voilà, les auteurs de science-fiction aussi ont pris conscience que tout l'imaginaire qu'on avait créé du futur, c'était un imaginaire d'effondrement, un imaginaire de fin du monde, un imaginaire apocalyptique. Alors qu'on sait très bien que c'est pas ce qui va se passer. De toute façon, l'effondrement, soit si grand soit-il, ce sera pas un apocalypse. Et ce sera pas une déchéance totale, ce sera pas un effondrement de tout. Donc, de se dire qu'elle... imaginer une transformation, mais qui soit pas aussi radicale soit-elle, mais qui soit pas une fin. Je pense aussi que c'est ce que nous apprend l'histoire du vivant. Il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin à l'histoire. C'est toujours une transformation perpétuelle. Et je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de réussir à se projeter différemment dans le futur. Et on a pas trouvé d'autre moyen que d'aller interroger le passé pour faire ça.
Donc avant de terminer cet entretien, parce qu'on enregistre aussi au sein du Jardin des Plantes de Nantes, on peut entendre d'ailleurs autour de nous le bruit des oiseaux, le bruit de l'eau, J'aimerais que du coup vous nous parliez d'un autre projet dont vous êtes à l'initiative et dans laquelle la Turbine prend part également. C'est le projet du collectif Serre et aussi son point de départ, les bivouacs.
Ouais, alors ça fait quelques années là maintenant que je fais dormir les gens dans le Jardin des Plantes de Nantes. Et donc on l'explore de nuit. Au fur et à mesure, moi je faisais ça tout seul et j'ai eu envie de pouvoir inviter d'autres personnes à participer à ce projet-là et puis en imaginer d'autres, savoir comment voir les parcs et jardins de la ville et puis tous les grands arbres qui nous entourent. Mais au fur et à mesure, je me rends compte que ma vision de la ville s'est complètement transformée et que je passe mon temps à guetter les arbres et je vois plus trop le béton. Et de savoir comment, par différents arts, souvent on est assez... sectorisé dans le milieu de la culture, soit on est dans la culture scientifique, musicale, voilà, des arts plastiques, du théâtre, et on se rend compte qu'en fait ce qui nous rassemble maintenant c'est plutôt les sujets, c'est plutôt les formes, c'est plutôt l'esthétique commune, et du coup là avec vraiment voilà, des illustrateurs, des gens de théâtre, des gens qui font plutôt des installations, et même des gens qui font de la grimpe d'arbres, on a vraiment un sujet commun et l'envie de produire des événements culturels dans lesquels on invite le public à observer le même objet par plein de médiums différents, là où souvent on propose aux gens d'aller explorer plein de monde par un seul médium. Donc on va voir ce que ça va donner dans les années qui viennent. Là, on a fait un projet ensemble cet été, l'événement dehors, et on va essayer d'imaginer d'autres choses à Nantes ou ailleurs ensemble.
C'est un projet qui rassemble des utopies plurielles finalement. Merci, merci Maxime de nous avoir fait voyager à travers le temps, les espaces, les continents, avec votre curiosité, votre engagement. Les liens vers le projet du Comte des Estuaires, donc porté par Arkham-sur-Loire, sur la partie France, et le collectif Serre sont à retrouver dans la description de ce podcast. Retrouvez nos autres contenus, articles et podcasts sur le site de La Turbine, vos plateformes d'écoute préférées, et on se retrouve très bientôt pour un futur épisode. Merci Maxime.
Merci.
Que me cante el mar, un bolero de...
Utopie.
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 Pluriel.
Utopie pluriel.
Utopie pluriel.
Utopie pluriel.
Utopie pluriel.
Utopie pluriel, le podcast de la turbine.
La turbine.
La turbine.